Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Et ceux qui nous écoutent à la radio, c'est la Saint-Patrick. Bonne Saint-Patrick à tous. Monsieur McKenna, mes hommages.
Bonjour Benoît.
Alors cette semaine, on a au programme, on va recevoir, tiens, un programme qui commence, qui s'appelle Autotrace. On va recevoir Léa Nathan, qui est une des responsables du programme, pour nous parler de ce que c'est exactement. Vous allez voir, c'est une bonne idée. Il y a beaucoup de...
Ça m'intrigue.
Oui, mais il faut y aller de façon volontaire. Je vous donnerai les détails tantôt.
OK.
Mais c'est un programme pour essayer de contrer le vol automobile.
Ah, ça, c'est bien.
C'est ça qu'il faut retenir dans toute l'application. Et on va en parler tantôt avec notre invité. Alain, t'as essayé quoi cette semaine?
J'ai conduit, je sais pas, j'avais un petit air de printemps le conduisant, le Subaru Crosstrek Wilderness, l'édition je veux dire haut de gamme, dans le fond, de la Crosstrek, qui est très, très, très agréable à conduire en partant, puis qui est très élégante aussi en version... teinté de bronze, de cuivre, je vais dire.
Oui, absolument. Mm-hmm. Donc, on est tous les deux dans l'abordable. J'aime ça cette semaine parce qu'il y a des semaines que c'est difficile, mais moi, je me suis promené dans un Kona, le nouveau Kona 2024, la version Preferred, qui est probablement celle qui va se vendre le mieux. On va faire le tour de ça, un petit modèle fort intéressant qui comble tous les besoins essentiels d'un véhicule. Là,
véhicule populaire, d'ailleurs.
Véhicule populaire et pour des bonnes raisons. Mm-hmm. Mais bon, évidemment, on va avoir notre chronique Écolo-Auto cette semaine aussi, mais je te laisse partir tout ça avec les nouvelles.
Ben écoute, j'ai une bonne nouvelle. Nissan coupe le prix de l'Ariya, petit VUS électrique.
Oui, on a vu ça il y a quelques semaines, effectivement.
Ouais. Évidemment, on a hâte de voir parce que ça n'a pas encore été au moment où on se parle. Là. Ça n'a pas été confirmé par Nissan Canada s'ils allaient suivre le mouvement. Mais Nissan USA, donc aux États-Unis, on vient d'annoncer une réduction du prix de vente de l'Ariya qui peut atteindre 6 000 $ américains, bien sûr, donc à environ 8 000 $ canadiens. De base, le petit VUS tout électrique de Nissan a vu son prix baisser de 3 600 $ américains, encore une fois, au début mars, pour se situer à 39 590 $ américains. Si on convertit en dollars canadiens, ça donne à peu près 53 000 $. Faut dire que le prix de base de l'Ariya au Canada est justement de 52 998 $, donc on est pile poil dessus. Nissan Canada a revu à la baisse un petit peu au courant de l'hiver le prix de l'Ariya pour se conformer aux limites des programmes gouvernementaux d'aide à l'achat. Donc peut-être qu'on n'aura pas l'effet de cette baisse-là, mais c'est quand même un montant assez intéressant.
Ouais.
Évidemment, si on baissait le prix au Canada, ce serait magique. De façon globale, Nissan dit avoir revu son procédé d'assemblage et c'est grâce à ça qu'il lui a été possible de réduire le coût de production de l'Ariya de 10 % juste en revoyant la façon dont on assemble le véhicule. Donc, c'est quand même une... je sais pas, là, c'est un indicateur qu'on aurait pu y penser avant, tant qu'à moi, là, mais peut-être aussi que c'est un indicateur d'une tendance à venir où on comprend maintenant comment mieux assembler des véhicules électriques.
Oui, puis c'est une tendance qu'on... Je ne sais pas si c'est une tendance qu'on va voir... partout, mais si tu regardes du côté de Ford,
exact.
On a annoncé une baisse qui va aux États-Unis jusqu'à 18 000 $.
C'était gros, là, les montants.
Pour un Mach-E.
Mm-hmm.
On avait déjà annoncé au Canada, je pense que le modèle Performance, entre autres, avait baissé de 13 000 $.
Exact.
Parce que là, on se rend compte du côté des constructeurs, et c'est le cas avec l'Ariya dans certains modèles, quand tu ne rencontres pas les prix pour des rabais gouvernementaux, les gens vont voir ailleurs.
Ben, c'est clair,
donc, je peux pas blâmer les gens non plus parce que si tu dis, ben là, moi, si j'ai droit à 12 000 $ pour certains modèles, pourquoi j'irai en prendre un où j'ai pas droit à une scène?
Une expression populaire, c'est un fou d'une poche.
Ben voilà.
Comme on dit en bon français.
Exactement.
Exactement.
Alors, il faut, tu sais, les constructeurs ont réalisé que bon, faudra peut-être faire l'effort de se rendre aux valeurs qu'on a fixées, puis peut-être qu'on va avoir des chances d'en vendre un peu.
Puis en fait, et là, on s'en rend compte, puis je sais pas pourquoi il a fallu le faire pour s'en rendre compte, mais ça marche quand on baisse le prix des véhicules.
Oui,
les gens n'achètent
sûr.
Plus. Que Ford, justement, tu le disais, a baissé la baisse moyenne du prix du Mach-E était de 8 100 $ aux États-Unis en février, et les ventes ont bondi comme à peu près de façon instantanée. Même chose pour la camionnette Lightning, F-150 Lightning, dont le prix a baissé en moyenne de 12 500 $ aux États-Unis. Et tout d'un coup, ça s'est mis à se vendre comme des petits pains chauds. Donc, clairement, ça confirme la principale barrière à l'achat des véhicules, c'est essentiellement leur prix élevé. Le fait que les constructeurs ont rapidement mis en vente des modèles plus équipés et plus coûteux de leurs véhicules explique aussi pourquoi certains d'entre eux se plaignent aujourd'hui de voir leurs ventes plafonner. Et là, ils disent que ça, le virage ne marche pas, mais essentiellement, c'est peut-être une question de mise en marché et de prix aussi qui
aurait
plus ajusté.
Exactement. On le répète depuis je ne sais plus quand, amener des véhicules électriques abordables et les gens vont les acheter.
Exactement.
Je me trouve redondant moi-même. Je le dis tellement souvent, mais ça reste le nerf de la guerre.
Tu sais qu'en marketing, ce qu'on dit, c'est qu'il faut répéter les choses de 5 à 7 fois pour que ça rentre dans la tête, pour qu'on s'en rappelle de façon durable. Ouais. Donc, répétons-le. Évidemment, éventuellement, les constructeurs vont allumer. Cela dit, quand même, la sous-bonne nouvelle, si vous voulez, dans tout ça, c'est que c'est une tendance à la baisse au niveau des prix qui devrait se poursuivre au moins cette année et peut-être de façon plus durable pour le reste de la décennie parce que le coût des matières premières, les métaux et tout le reste, là, est en chute libre depuis plus que quelques mois, là, pratiquement un an. Et on dit que, ben, évidemment, on va produire plus de matériaux et plus de batteries au fil des prochaines années. Donc, ça va rendre la disponibilité des composants plus facile, plus accessible et donc moins cher. Donc, peut-être que d'ici 2030, c'est quand même loin dans le futur, mais déjà au fil des prochains mois, on devrait avoir une amélioration sur les prix. Et là, ça commence déjà à se faire sentir chez plusieurs constructeurs.
OK. Autre nouvelle.
Ben, dans le même, écoute, j'ai de la suite dans les idées clairement aujourd'hui. Volkswagen a trouvé le moyen de produire des batteries 40% moins chères.
Quand même.
Ce qui me semble un pourcentage assez intéressant.
C'est quoi la recette?
écoute, pour être exact, c'est une entreprise américaine issue du fameux Massachusetts Institute of Technology, le MIT, qui est essentiellement en fait financée par Volkswagen, là, qui s'appelle 24M Technology, qui viendrait, selon ce qu'elle affirme, en tout cas, de trouver le moyen de réduire de 40% le coût de production de ses batteries pour véhicules électriques en adoptant une solution chimique qu'elle appelle semi-solide. 24M a mis au point un matériau gélatineux qui est plus facile à manipuler que les matériaux de batterie actuels, mais qui n'est pas aussi capricieux que les matériaux solides. Parce qu'on parle de fameuse batterie à
solide,
c'est compliqué à assembler pour plein de raisons, entre autres parce que les matériaux sont capricieux. Et on attend ces batteries-là à la fin de la décennie, mais dans le cas de 24M, ça pourrait arriver plus vite. Son matériau simplifierait grandement la production des cellules, donc vraiment les petits éléments qui composent les grosses batteries.
On sait que Volkswagen a un énorme centre de batteries en Ontario, entre autres.
Exactement, okay. Et ils ont une approche intéressante parce qu'ils font des batteries modulaires en plus, donc c'est plus facile à réparer, entre autres détails, puisqu'on n'a pas à scraper toute la batterie quand on a une...
Il y a eu de très fortes discussions un peu partout dans le monde entre les assureurs et les constructeurs automobiles pour dire « Hey, y a-tu moyen de rendre des batteries parce que t'as des compagnies comme Tesla que la batterie est scellée.
Ben oui.
Si tu veux réparer la batterie, là, bonne chance. Mm-hmm. Moi, j'ai quelqu'un que je connais qui en a défait une là, pour le plaisir de dire on va essayer. Puis il dit il y a personne qui va perdre ce temps-là à faire ça. Là.
Exact.
Alors le problème, c'est que quand t'as le moindre accroc sur une batterie de Tesla, la voiture est déclarée perte totale parce que personne ne veut réparer ça. Il faut changer la batterie.
Voilà.
Alors, c'est un problème sérieux. Alors, si on peut avoir des batteries modulables, faciles à réparer, comme un moteur à essence, finalement.
Ben oui.
Tu as un problème de cellule. Ah, ben on change la cellule qui ne fonctionne pas. Ça va coûter quelques centaines de dollars. Puis des fois, c'est même pas ça.
Mm-hmm.
Puis on repart. C'est fini.
Exactement.
Ouais.
Parlant de ça, 24M Technology dit pouvoir produire des batteries à partir de matériaux recyclés, justement tirés de vieilles batteries. 24M Technology appelle son procédé, ben évidemment c'est une marque, là, Life Forever.
Ben oui.
Comprenez. Il permettrait d'intégrer directement à ses lignes d'assemblage des matériaux de batterie de fer lithium phosphate, les fameux LFP, recyclés. Donc, ce qui éviterait des coûts et des délais de production. Normalement, quand on recycle une batterie, il faut la décomposer, transformer une partie de ses composants en une fine poudre noire. Qui est délicate à manipuler, entre autres choses parce qu'elle est toxique. Donc, clairement, il faut faire attention.
Oui. Quand c'est toxique,
on prend soin de ces choses-là.
Faut faire un peu attention.
Ce qu'on dit chez 24M Technologies, c'est que cette nouvelle technique-là évite d'avoir à produire cette poudre noire-là. Donc, c'est aussi plus sécuritaire.
OK.
Tout ça, là, mis ensemble, c'est quand même, ça sonne un peu comme de la magie. Et donc, il reste à voir, évidemment, il faut prouver maintenant qu'on peut faire ça. Volkswagen pourrait l'adopter assez rapidement si c'est fonctionnel. Parions que ça ne va pas tarder parce que, justement, le groupe allemand veut se positionner comme un fabricant de voitures électriques abordables. Donc, on va aller loin dans cette recherche d'une batterie pas chère. Et clairement, on a peut-être mis le doigt sur quelque chose.
Il est clair qu'il faut que ça passe par la batterie. Parce que c'est pas le reste du véhicule qui coûte cher. Le reste du véhicule ne coûte pas plus cher qu'un modèle à essence. C'est la batterie qui coûte cher.
Voilà.
Alors, quand on arrivera à faire des batteries à petit prix, on aura des véhicules à plus petit prix.
Ben voilà.
C'est aussi simple que ça. moi, j'ai une nouvelle qui sort un peu de l'ordinaire. Puis c'est drôle parce qu'en faisant le tour de mes nouvelles la semaine dernière, tous les jours, je prends un peu de temps, je vais sur différents sites, je pense que tu as les tiens aussi. Puis là, à un moment donné, je tombe sur une voiture qui appartenait à Charles Trenet, qui a gagné un concours d'élégance à Amelia Island. J'ai dit, ben voyons donc. Là, je me mets à lire la nouvelle tranquillement. En fait, Amelia Island, c'est en Floride. Mmh. C'est un concours, c'était la 29e édition du concours d'Amelia Island cette année. Et on a toujours deux gagnants au concours, c'est-à-dire la voiture sport et la voiture touriste, la voiture plus
ordinaire.
Consommateur. Ben, ouais. Ordinaire,
ordinaire
non. Quand on parle d'une Delahaye 135
MS, il n'y
a rien d'ordinaire dans ce véhicule.
Je retire ce que j'ai dit.
Mais c'est une voiture, le nom précis, là, c'est une Delahaye 135 MS Narval Cabriolet 1947.
Donc, là, juste là, le nom est évocateur.
Ouais. Delahaye est une compagnie française, en fait, qui est installée à Paris. C'était, on ne pouvait pas plus faire plus français que ça. C'est la voiture qui a volé la vedette récemment, c'était au début mars, qui a remporté le prestigieux Best of Show, donc la voiture la plus primée. Et c'est une voiture qui a appartenu à Charles Trenet. Charles Trenet était venu aux États-Unis, avait fait une tournée en 1948 et avait transporté cette voiture-là aux États-Unis pour pouvoir voyager sur les routes américaines à l'époque. Et après la tournée, il ne l'avait pas ramenée, elle avait été rachetée. Elle est passée entre les mains de trois propriétaires. C'est quand même pas beaucoup depuis 1948.
Mm-hmm.
Et elle a été restaurée à l'état neuf. C'est un concours d'élégance. Donc, quand on dit une restauration concours, là, c'est qu'elle est exactement comme elle était impeccable. À la sortie de l'usine. Mm-hmm. C'est pas compliqué. Même couleur d'origine, une espèce d'orange brûlé. Une teinte qui était chère au carrossier, c'était Delahaye. Il y avait plusieurs modèles dans ces couleurs-là. Donc, la voiture a été présentée là. Elle a été la gagnante. Et le Best of Show dans la catégorie sport, c'est une Ferrari 250 GTO 1962. Autre voiture qui vaut facilement dans les 7 chiffres. Là. On parle même dans les 8 chiffres dans certains modèles. Là. On parle de plus de 10 millions de dollars. Là. Donc, c'était pour signer la chose parce que on savait que Charles Trenet aimait les autos, mais il y a une de ses autos qui s'est ramassée aux États-Unis. Je trouvais la chose sympathique.
Une voiture spectaculaire.
Absolument. Mmh. Une voiture qui était intéressante à souligner. Et là, autre nouvelle, et on change un peu de domaine, Riyad et Moscou vont prolonger les coupes de pétrole de l'OPEP jusqu'à la mi-2024. C'est-à-dire que là, on s'en rend plus ou moins compte, mais comme la quantité de véhicules électriques qu'on vend augmente, les besoins en pétrole diminuent tranquillement. Donc, si on suivait la logique du marché de l'offre et la demande, ben, le prix du pétrole devrait descendre parce qu'il y a moins de demandes et il y a plus d'offres. Mais là, on contrôle tout ça chez l'OPEP.
Le prix de l'essence et du pétrole obéit à une loi dont le secret...
En fait, le problème, c'est que c'est des oligarques. Là. C'est quelques pays qui contrôlent l'entrée et les sorties. Et là, ce qu'on a fait, on dit qu'on va prolonger la coupe volontaire de production de pétrole jusqu'à la mi-2024. Ça vise à soutenir évidemment un cours du pétrole qui va demeurer élevé. On parle de réduire la production d'un million de barils par jour entre avril et juin. Pour justement garder le prix au plus haut. Alors, on va voir ce que ça va donner, là, mais c'est pour tous ceux qui espéraient voir le prix du pétrole baisser, là. Ça sera pas avant l'été.
En fait, c'est
là,
les cours du pétrole. Heureusement, on n'a que du pétrole nord-américain au Québec. Là, mais,
exact.
Heureusement, étant entre guillemets quand même. Là, mais c'est hallucinant, c'est qu'on écoute encore la Russie sur des prises de décision comme celle-là. Parce qu'avec avec ce qui se passe en Ukraine...
On devrait jamais écouter la Russie pour rien de ce temps-là.
Je veux dire,
en tout cas,
pas pour ça.
Pas Poutine. Je veux pas mettre tous les Russes dans le même bateau, là, mais disons que la Russie n'est pas un exemple à ce chapitre-là au niveau des décisions. Alors voilà, c'était juste pour le souligner. Là, mm-hmm. Ça veut dire que, bon, dans les prochains mois, faut pas espérer voir le prix du pétrole réduire de beaucoup.
C'est ça. Il y a une pression sur les prix vers la hausse niveau de la... et qui pourrait se refléter à la pompe, malheureusement.
Ben, c'est parce qu'un million de barils par jour, avril, mai, juin, ça fait 90 jours, ça fait 90 millions de barils par jour.
Mm-hmm.
Ça commence à être assez significatif. Quand même, là, c'est sûr qu'ils vont en garder assez pour fournir le marché, mais on veut garder le prix élevé et on prend les décisions en conséquence. On va à la pause et on va revenir après avec Léa Nathan pour parler du programme Autotrace.
Yeah!
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Vous le savez, les vols de voitures ont fait la manchette. On en a parlé avec Yves Boisvert il y a quelques semaines à l'émission. On voit là qu'on commence à... Oups, on bouge un petit peu plus là pour faire un peu diminuer la tension de l'opinion publique. Mais il y a des organismes, il y a des gens qui se sont mis ensemble pour voir si on pouvait pas lutter contre le vol de véhicules en facilitant la détection, la récupération des véhicules volés partout dans le monde. On a un représentant d'un organisme aujourd'hui qui s'appelle Autotrace. Il s'agit de Monsieur Nathan Léa. Monsieur Léa, bienvenue à l'émission. Bonjour.
Bonjour à vous.
Bon, parlez-nous un peu de ça. C'est quoi exactement Autotrace? Ça existe depuis quand? Et c'est quoi le but de cette compagnie-là?
Alors, c'est une bonne question. Merci d'ailleurs pour l'audience que vous nous réservez.
Ça nous
Alors,
fait plaisir.
Autotrace rapidement, comme ça, c'est une solution innovante de lutte contre le vol de voitures.
Okay.
Donc, notre objectif est vraiment de réduire la fréquence des vols de voitures et aussi de faciliter la récupération des voitures ou des véhicules volés. Donc, notre organisme s'appelle YDS. C'est une organisation à but non lucratif qui a pour but d'accompagner le développement des entreprises d'économie sociale. Donc, YDS a été créé, comme vous le demandiez tantôt, en 2002. Et Autotrace est un de nos premiers projets en partenariat avec le groupe PACH afin de bénéficier de son expertise dans le domaine technologique et de l'automobile.
OK. Bon, là, expliquez-nous comment ça fonctionne, parce que je pense qu'il faut s'inscrire sur le programme pour que notre voiture soit identifiée, notre véhicule soit identifié pour qu'il fasse partie d'une banque de données, c'est ça?
C'est une bonne question. Effectivement, vous avez bien résumé ça. Mais comment est-ce que je pourrais résumer ça un peu plus en détail?
Oui.
Je dirais qu'il faut partir d'une bonne compréhension de la dynamique de vol. Alors, que deviennent les voitures volées? Donc, les données montrent en fait que la grande majorité des voitures volées sont soit exportées vers, soit revinées et vendues sur le marché local. Donc, il y a vraiment deux dimensions importantes à prendre en compte si on veut bien adresser le problème de voitures volées.
Okay.
Donc là, il y a la dimension transnationale, donc le fait qu'une grande partie des véhicules volés sont exportés pour être vendus dans d'autres pays et d'autres régions. Et il y a vraiment la dimension de revinage ou de clonage, excusez-moi, qui consiste en fait à... C'est le fait que l'identité de notre voiture est illégalement copiée.
Oui, parce
sur
que
une voiture volée.
Vous faites bien de le souligner, il y a des voitures qui ne vont pas dans un conteneur à l'étranger, qui sont revendues en Ontario, Nouveau-Brunswick ou dans des provinces voisines. Donc, quand vous dites reviner, évidemment, le VIN, c'est le numéro d'identification du véhicule, le NIV, là, en français. Donc, c'est de refaire un numéro d'identification pour qu'évidemment, il ne soit pas identifié comme étant volé. Généralement, on prend, je pense, des cas de voitures qui ont été à la casse, là, qui se sont ramassés, qui ont été éliminés du marché et on leur redonne une vie. Là. C'est un petit peu ça qu'on fait en général. Est-ce qu'il y a un gros pourcentage que c'est des modèles qu'on va réidentifier pour remettre sur le marché par rapport à ceux qui vont à l'étranger, par exemple?
Alors, ce qu'on remarque principalement dans le marché, ce que les données nous montrent, c'est que la plupart des véhicules sont effectivement soit revenus, comme vous venez de l'expliquer, soit revendus à l'international, mais il y en a aussi qui sont revendus en pièces détachées. Mais les données montrent que la plupart des véhicules sont soit exportés, soit revenus, mais le plus gros du morceau est vraiment exporté vers l'étranger. Parce que, effectivement, c'est moins difficile de retracer à ce moment-là, avec les technologies actuelles.
Bon. Oui, ben, j'allais demander. Et là, votre service vous permet de prévenir cette pratique-là? Comment ça fonctionne exactement?
Très bonne question. Donc, notre approche consiste à rendre plus facile la détection des voitures volées ou le revinage partout dans le monde. Donc, grâce à notre plateforme, tout le monde partout dans le monde peut, en quelques clics, détecter si une voiture est volée ou clonée. Donc, le citoyen ou la citoyenne du monde entier peuvent utiliser sur notre plateforme et c'est très convivial, c'est très gratuit et c'est gratuit également. Les organisations du monde entier peuvent utiliser aussi, par exemple, les douanes, les forces de sécurité, les administrations en charge de l'enregistrement des véhicules dans le monde. Et enfin, notre plateforme est accessible aux individus et aux organisations partout dans le monde.
Bon, mettons, je veux inscrire mon auto sur votre programme parce que ça se fait sur une base volontaire, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont s'inscrire et qui mettent leur véhicule sur Autotrace. Donc, comment je procède là? Moi, j'ai un véhicule. Évidemment, j'ai besoin de mon numéro d'identification de véhicule, c'est clair. Mais quel genre d'informations je dois entrer sur votre site là?
Très bien. Donc, à ce moment-là, il y a trois façons de procéder. Donc, premièrement, si vous êtes, admettons, dans une logique d'acheter un véhicule, ce serait d'abord bien d'avoir de l'information sur le numéro de série de ce véhicule, donc c'est-à-dire le numéro VIN dont on parlait tantôt. Ouais. Et ce véhicule, étant donné que il y a un seul numéro unique qui est associé à votre véhicule, il suffit d'entrer des informations personnelles à vous qui permettent de vous associer à ce véhicule-là.
Okay.
Premièrement. Deuxièmement, si le propriétaire du véhicule veut tout simplement de manière proactive vérifier si le véhicule qu'il va acheter est volé ou pas, il n'a jusqu'à rentrer le numéro de VIN dans notre plateforme et à ce moment-là, il saura si oui ou non il fait partie d'une base de données de véhicules frauduleux.
Voilà. Oui, ça c'est possible, mais dans la mesure où le véhicule a été entré, parce que il faut aller soi-même s'inscrire. Donc, si quelqu'un ne va pas s'inscrire, ce véhicule-là n'est pas dans votre base de données.
Si quelqu'un s'inscrit, effectivement, cela n'est pas dans notre base de données, okay. Mais dans une base de, comment dirais-je, excusez-moi, je vais bien me répéter. Disons que c'est plus dans un effort un effort citoyen, nous encourageons justement les gens à venir à venir s'inscrire de manière à rentrer cette information dans notre plateforme.
Donc, en ce moment-là, au moment où on se parle, vous avez combien d'entrées de données de véhicules sur les différents sites? Parce que, bon, on parle évidemment d'Autotrace ici, mais c'est un programme qui existe ailleurs dans le monde aussi, là.
Bien, Autotrace, effectivement, existe dans le monde également. Pour être plus précis, nous avons commencé nos activités de très récemment, pour dire en début d'année de 2024. Donc, pour le moment, nous avons une base de données qui se situe principalement en Amérique du Nord, du côté de l'Afrique, mais aussi de l'Europe. Nous voulons justement avoir du partenariat avec les institutions locales dans les différents pays, avec le partenariat des citoyens dans les différents pays pour pouvoir augmenter notre base de données.
OK. Donc, autre que les particuliers comme moi ou d'autres qui ont un véhicule, est-ce que vous pourriez, par exemple, approcher des membres de concessionnaires automobiles, des constructeurs pour avoir une plus grande... Ben, peut-être pas un constructeur, parce qu'il faut d'abord que l'auto soit vendue.
Ouais.
Mais est-ce qu'il y a une façon plus rapide que de procéder en allant seulement vers le citoyen?
Mais absolument, parce que je pense d'ailleurs que nous pensons avec Autotrace, notre solution, que c'est une solution qui s'adresse justement à tous les parties prenantes de la chaîne, de supply chain, excusez-moi de l'anglicisme, de ce marché-là. Donc les assureurs, par exemple, ont intérêt à travailler avec nous parce que justement, à ce moment-là, ils ont une protection additionnelle contre le vol de voiture. Les citoyens doivent travailler avec nous parce qu'ils ont aussi cette capacité de pouvoir signaler et aussi récupérer leur voiture. Et enfin, les différentes les échelles gouvernementales peuvent aussi travailler avec nous afin de contrer ce fléau-là. Rappelons quand même que le gouvernement du Canada a pris récemment a organisé récemment un sommet à Ottawa à ce propos-là. Donc février. Ça montre quand même que la question est préoccupante et qu'ils veulent vraiment encourager les citoyens à trouver des solutions, chose dans laquelle nous nous enregistrons.
En tout cas, je trouve l'initiative intéressante. C'est assez simple. Vous faites autotrace.org.
Ah oui, j'allais demander. Donc, c'est Autotrace comme on pense que ça s'appelle.
AUTOTRACE. Autotrace, en un mot, .org. Et vous arrivez sur un site où vous pouvez vérifier si votre voiture est volée, signaler le vol de votre voiture. Vous pouvez même aussi protéger l'identité de votre véhicule. Donc, on a mis tout ça sur pied. Et c'est quoi les prochaines étapes pour vous, M. Léa, dans les mois qui viennent?
C'est une bonne question. Donc, aujourd'hui, nous sommes à la recherche de partenariats, non seulement à l'échelle du citoyen, mais aussi à l'échelle des différentes échelles étatiques, mais aussi au niveau du privé et du public. Donc, ce que nous voulons, c'est qu'il y ait de plus en plus de citoyens qui s'intéressent à justement lutter contre ce fléau-là. Donc, si par exemple, déjà, c'est un message que je lance vraiment. Si un citoyen est victime de vol, il est important qu'il signale l'incident sur notre plateforme parce que c'est facile et c'est gratuit. Si un propriétaire aujourd'hui veut protéger l'identité de sa voiture, il peut passer par notre plateforme. Et aussi, finalement, s'il veut acheter une voiture, donc il faudrait qu'il y ait le réflexe de toujours vérifier avant d'acheter sur autotrace.org. Cela permettra justement de voir si la voiture a été volée ou revinée. Donc, le projet à but non lucratif et notre but est vraiment d'assurer la sécurité des personnes et de leurs véhicules.
Ben, un grand merci pour votre temps, M. Léa. Je pense que l'initiative est intéressante et on va faire suivre l'information. Je vous souhaite bonne chance. Et comme tous les dossiers qu'on fait à l'émission, on fera un suivi. puis on regardera dans quelques mois comment tout ça se comporte de votre côté. Merci encore d'avoir été là.
Merci à vous. Merci à vous de votre temps. Au revoir.
Merci. Bye au revoir. Bye. Alors, c'est Monsieur Nathan Léa qui est porte-parole pour la compagnie autotrace.org. Nous, on va à la pause et on revient avec nos essais routiers.
Vous écoutez Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Tiens, avant de parler de nos essais routiers, il ne faut pas oublier notre petite chronique Écoloto. Mm-hmm. C'est assez simple cette semaine. On vous invite à avoir toute l'information de la nouvelle Tesla Model 3 parce que on a changé le Model 3. Bon, les gens qui vont le voir, l'ancien et le nouveau modèle, vont peut-être avoir besoin d'explications parce que ce n'est pas des changements phénoménaux, disons-le comme ça.
Mais ils n'ont pas une stratégie typique d'un constructeur automobile.
Non, effectivement, mais il y a quand même des changements qu'on ne voit pas. Je pense que c'est plus ça. Écolo Auto vous invite à faire le tour. Je vais mettre l'article en lien sur annuelauto.ca. Vous pourrez aller lire ça. On parle entre autres des changements à l'intérieur, au niveau de l'électronique, dans les programmes, parce qu'on c'est beaucoup dans les programmes. On fait toujours les mises à jour de façon... aérienne.
oui, bien dit.
C'est un peu ça.
C'est approprié.
Donc, on va parler de tout ça. Donc, je vais avoir une référence et on vous invite à aller faire un petit tour. Mm-hmm. Cela dit, pour nous écouter, toujours le même principe, vous allez sur 98.5fm.ca. Vous allez dans la section balado. Ça tient la route.
On est là.
On est là, à côté de la tasse de tech.
Une tasse de tech que je recommande aussi chaudement à tout le monde.
Oui, absolument, mm-hmm. que mon ami Alain anime. Et vous pouvez aller également sur vos plateforme préférée, hein, plateforme de balado. On est là, on est partout, je pense. On est pas mal partout.
Oui.
Et on est à la radio. À Montréal, c'est le dimanche soir à 18h. Je sais qu'on est un peu partout en province, dépendamment de la journée, c'est le samedi ou c'est le dimanche. Et pour une mise à jour, ben vous allez sur annuelauto.ca. On met l'émission en ligne à chaque semaine quand elle arrive sur les plateformes numériques. Mm-hmm. Alors voilà, le mot est dit. Alain, ton essai de la semaine?
Écoute, j'ai conduit un Subaru Crosstrek Wilderness. On a déjà parlé du Crosstrek 2024, le Subaru, j'aurais dit comme ça. C'est certainement un des véhicules les plus rationnels à acheter au Canada ces jours-ci, à mon avis. Mais parce que Subaru souhaitait injecter un peu d'émotion dans sa petite familiale, elle a lancé plutôt cet hiver. D'ailleurs, tu en avais parlé à ce moment-là aussi.
Oui, puis le modèle, écoute, la version il fonctionne bien. Il fonctionne bien, fait que pourquoi pas mettre cette recette-là ailleurs?
Exact, parce qu'il est aussi sur l'Outback Wilderness existe aussi. Et là, je vous laisse définir si vous dites Wilderness ou Wilderness, dépendamment comme vous vous situez sur le I en anglais. C'est la variante la plus coûteuse du Crosstrek. Son prix de détail est de 40 500. C'est rafraîchissant dans la mesure où ces jours-ci, 40 000, c'est un peu le prix de base des véhicules neufs vendus chez nous, alors que dans le cas du Crosstrek, c'est le prix le plus élevé que vous risquez de payer, à quelques centaines de dollars près, là, étant donné que le Crosstrek de base se vend, lui, 31 500. Cela dit, il y a quand même 9 000 qui séparent le Crosstrek de base de sa version Wilderness. Alors, on peut se demander si la surprime vaut la peine. Et, faisons-le. Demandons-nous. D'abord, disons que la grosse différence pour ce prix est qu'on a droit au 4 cylindres à plat le plus puissant des deux versions, là, offertes par Subaru sur ce modèle-là. Il fait 2,5 litres. Il fait 182 chevaux de puissance. Et si vous comptez acheter un Crosstrek, peu importe la version, c'est le moteur à considérer, là, si vous voulez mon avis. Il est plus puissant. Il coûte un petit peu plus cher à l'achat, mais sa consommation n'est pas... Écoute, à peu près pas plus élevé que le moteur de base, qui est un 2 litres, qui fait 152 chevaux de mémoire. Après une semaine au volant du Crosstrek Wilderness, notre moyenne à moi de consommation s'est établie à 8 litres au 100 km, ce qui est somme toute assez respectable pour une petite familiale à 4 roues motrices, capable de déplacer 4 ou même 5 personnes et leur épicerie tout entière. Ça, c'est un fait vécu. Je devrais ajouter, déplacer avec élégance aussi, parce que comme c'est le cas pour l'Outback Wilderness, justement, on a droit ici à une version très remarquable du Crosstrek. On a des garnitures cuivrées un petit peu partout, là, des bas de caisse plus sombres, style graphite. Tout ça rend le véhicule très facile à repérer sur la route, ça, il n'y a pas de doute. Ou même en route, en fait, où il se tire particulièrement bien d'affaires. Il faut dire que Subaru a ajouté des protections sous la caisse conçues exprès pour éviter les dommages si vous aventurez sur des sentiers rocheux. Ce qu'on craint toujours de faire, c'est d'accrocher une grosse roche qui sort un peu d'un sentier. Et là, évidemment, ces jours-ci, c'est plus boiteux qu'autre chose, donc ça reste quand même un petit côté suspense au fait du hors-route. Là, on a un système de conduite électronique en prime qui permet d'altérer son comportement de façon remarquable. C'est pas juste un élément. Tu sais, souvent, on a genre conduite normale, éco, sport, et ainsi de suite. Là, on a vraiment un mode normal et un mode Écoute, c'est I et S. Je me rappelle plus ce que veulent dire les lettres, mais essentiellement, c'est un mode sur route et hors route. Et on voit vraiment la différence qui permet vraiment de mieux négocier là, les sentiers quand c'est boiteux, les pentes abruptes. Ça, d'ailleurs, c'est un gros élément où quand le sol est très inégal. Morale de l'histoire, là, pas besoin d'un VUS, et encore moins d'un gros VUS pour se rendre au chalet dans le fin fond des bois. La plupart des gens probablement pourraient utiliser un cross-track et ça ferait amplement l'affaire.
Ah ben, souvent, on achète un véhicule pour lequel on n'exploitera jamais plus de 12 % de ce qu'il est capable de faire. Là,
exactement. L'édition Wilderness le fait avec un petit peu plus d'assurance et de style. Je veux juste dire ça comme ça.
Absolument. Parce
qu'effectivement, ça reste une familiale. Mais
c'est... si vos pires routes, c'est un chemin de gravier ou une route mal déneigée l'hiver, là,
ouais.
Vous êtes absolument dans le bon véhicule pour ça. Là.
Et Subaru est assez ingénieux. Ben, ingénieux, je vais dire ça comme ça. Je pense qu'ils ont été juste rationnels parce que sur ce véhicule-là, sur la version Wilderness, il y a des roues de 17 pouces avec des pneus tout-terrain Yokohama. Il y a une version intermédiaire du Crosstrek qui a des roues de 18 pouces. C'est plus urbain, tout ça. Et c'est là qu'on se rend compte que des fois, on met des plus grosses roues en se disant ah, c'est, hein, c'est, je viens de régler mon problème, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne nécessairement.
C'est généralement plus beau. Mais voilà. C'est moins efficace.
Puis c'est plus raide aussi. Bon, bref, il y a plein de désavantages.
Vous consommez un petit peu plus de carburant aussi, ou un peu plus d'électricité si vous êtes dans des véhicules électriques.
Ben, ça, c'est peut-être d'ailleurs l'affaire qui est triste à propos du Crosstrek, c'est qu'il y avait avant une version hybride et une version hybride branchée qu'on n'a pas reconduite. Donc on
non, parce
pas.
Que t'as pas efficace, là.
Ben, honnête, c'est ça. C'était pas nécessairement une bonne option, mais au moins, on essayait. Là, on n'essaie même plus.
Non.
À l'intérieur du véhicule, là, on reprend ce que j'appelle une longue tradition chez Subaru qui consiste à offrir le système multimédia le plus désagréable à opérer qu'on peut trouver sur le marché.
Oui, et le système de son le plus mauvais aussi dans l'industrie.
Oui, exactement. Là, je veux dire, ça s'améliore quand même un peu, même si la grande surface tactile de l'écran central là, demeure très peu ergonomique. Au moins, on peut régler la climatisation, même la radio, assez rapidement. Il y a des icônes d'accès rapide à des affaires assez précises qui réduisent le bidouillage. Et là, j'utilise un mot poli parce qu'il m'en vient d'autres à l'esprit. Mais écoute, ça reste
le
un grand
message.
Ben oui, c'est ça. Le QRF va m'appeler, mais bref, c'est le mot auquel je pensais. Bref, le Crosstrek Wilderness là, produit une très bonne première impression. Ça, il n'y a pas de doute. Évidemment, comme bien des vues, tu le disais, parce que c'est pas un vue, mais comme on le fait souvent avec des vues, c'est qu'on risque de sous-utiliser ses capacités hors route et donc de payer plus cher juste pour le
style. On s'entend que c'est une familiale, là.
Mais là, on reste avec une familiale, effectivement, puis c'est relativement correct si tu avais le goût de payer 9 000 $ pour pas grand-chose de plus que ce que vous allez faire avec le Crosstrek de base. Mais c'est quand même moins cher que beaucoup d'autres véhicules. Donc
absolument.
On va lui donner ça. Et de toute façon, au pire, vous pouvez aussi éviter de payer plus en optant pour une version moins stylisée du Crosstrek qui va être tout aussi agréable et un peu plus abordable. Mais il faut dire que la version Wilderness est vraiment se distingue visuellement assez avantageusement.
Oh, et puis c'est une formule qui fonctionne très bien chez Subaru. Mm-hmm. On a fait les Subaru Forester Wilderness, ça s'est vendu comme des petits pains chauds. Le Outback Wilderness, ça s'est vendu.
Mais on voit beaucoup d'Outback Wilderness.
On fournissait pas.
Ouais.
Bon, visuellement, il est plus beau, faut l'admettre. On les a un peu surélevés pour donner un peu plus de capacité, mais trop souvent, les gens achètent ça, puis ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir un véhicule plus haut. Mm-hmm. C'est comme tous les gens qui allaient des Land Rover. Là. S'ils savaient, ces gens-là, ce que c'est capable de faire, un Land Rover, puis ils font rien avec ça. Là. Ils vont, c'est leur véhicule de tous les jours. Mm-hmm. Donc, il faut toujours garder en tête que vous payez pour une technologie. Si vous dites, oh, j'aurai jamais besoin de ça, bon, est-ce que c'est le bon achat à faire? Donc, il faut toujours se poser la question.
Ouais.
Parce que vous allez payer plus cher parce que vous en avez plus. Est-ce que vous allez l'utiliser? Les gens disent, ah, il est beau. C'est vrai. Il est beau.
Ça, c'est vrai. Puis en même temps, il est très remarquable visuellement. Donc, si vous vous égarez votre voiture dans un stationnement de centre d'achat souvent,
vous ne pouvez pas le manquer.
C'est payer cher pour le retrouver, mais vous allez le retrouver parce qu'il se repère facilement au premier coup d'œil.
Absolument. Écoute, moi, je suis dans le coréen cette semaine.
Oui.
Le petit Kona 2024, véhicule qui est très populaire. En fait, depuis son arrivée en 2018, c'est un des véhicules les plus populaires du côté de chez Hyundai. Et on a conservé ce côté attrayant-là pour le 2024. Écoutez, des modèles qui commencent à 26 000 $ là.
Oui, ça, c'est rare.
Il
n'y
en a pas beaucoup.
C'est plus rare que rare.
Il n'y en a pas beaucoup. Mm-hmm. Moi, j'avais un Preferred qui est comme la deuxième coche qui commence, qui va entre 28 et 32 selon les options que vous allez prendre dedans. Mais ça reste un véhicule qui est encore très abordable. Il a changé de style. En fait, c'est drôle parce que cette année, on s'est basé sur le modèle électrique pour faire le modèle à essence.
Mm-hmm.
Ce qui est à l'inverse dans la première génération, c'est-à-dire qu'on avait adapté littéralement un modèle électrique à partir de celui à essence. Et là, on le fait un peu plus carré, un peu plus grand. un peu plus long. Donc, les gens à l'arrière, vous avez un petit peu plus d'espace. Mais c'est vraiment là, ça convient à tous les besoins. Il y a 179 litres de plus pour l'espace bagage en arrière. C'est quand même significatif.
Ouais, vous avez 700, carré, hein,
733 optimise. Litres d'espace à l'arrière. Petit moteur 2 litres qui paye pas mine, 147 chevaux. Mais c'est parfait. Pour ceux qui ont à aller du point A au point B, qui ne recherchent pas la performance, puis je le répète, là, ce n'est pas tout le monde qui veut une machine fardée d'électronique avec un moteur qui peut vous amener à 100 km/h en 4 secondes. Il y a des gens qui veulent juste aller travailler puis revenir, faire leur commission puis revenir. Puis ça, c'est exactement le genre de véhicule. Évidemment, il y a des versions N-Line qui vont vous en donner un petit peu plus. Mais moi, j'ai fait exprès. Là, je voulais essayer le modèle qui va être le plus populaire. Donc, je pense que c'est un modèle qui est fort intéressant de ce côté-là. On a mis l'accent dans la nouvelle génération sur le confort de l'habitacle. Vous avez des sièges chauffants ventilés dans un modèle qui est quand même assez abordable.
Oui.
Vous avez également en option un volant chauffant. Ça, c'est une option.
Ah, oui.
Vous avez des écrans du système multimédia qui sont à 12,3 pouces, donc des écrans un peu plus grands dans cette nouvelle génération de véhicules-là. Les passagers avant et arrière bénéficient de ports USB-C pour la recharge de tous leurs dispositifs. Donc, tout ça va convenir très bien à tout ce qu'ils ont. La console centrale est plus été réduite, mais pour donner un peu plus, je dirais un peu plus de
dégagement latéral.
De dégagement, oui, pour tous ces gens-là. Technologie à bord, bon, il y a quand même pas mal de systèmes de conduite avancés qui sont inclus. Un système de stationnement à distance qui est accessible via même une télécommande.
On parlait tantôt de technologie que les gens utilisent. Je ne sais pas si on s'en sert de ces gadgets-là.
Moi, je ne m'en suis jamais servi.
Ben.
Ça, c'est une affaire. Je dis, hey, c'est bien le fun. On l'a essayé d'un lancement. On dit, ah, ben oui, mais jamais je me suis. Même des véhicules de presse, ça m'a mené, ah, une fois pour impressionner mes nièces.
Bon, ben voilà.
Mais c'est tout.
C'est ça que ça sert.
Je dis, regarde, le tour va s'en venir. Boum. Mais c'est ça. Tu sais, c'est des choses qu'on a. Il y a une caméra pour les angles morts. Ça, oui, ça rend service. Une assistance au centrage de voix, un avertisseur de trafic transversal avant qui s'ajoute à la liste de fonctionnalités avec le Kona. Ça, c'est une nouveauté dans le modèle 2024. Ça s'ajoute à ceux qui étaient déjà là, comme l'alerte de collision, le régulateur de vitesse adaptatif, le système d'alerte de sortie de voie. Les prix, on l'a dit, on commence autour de 26 000, on va jusqu'à 38 000 si vous avez un N-Line. Mais le modèle Preferred, là, qui est probablement le modèle le plus populaire, va se détailler à peu près autour de entre 28 et 32 000. Donc, je trouve que pour un véhicule abordable, c'est pas mal là. Parce que ça se compare avec des modèles comme le Chevrolet Trax, le Buick Encore, Kia a le Seltos, qui est à peu près dans cette catégorie-là. Les prix vont tourner autour de la même chose.
Ouais.
Vous avez tout ce dont vous avez besoin.
Ben, on a aussi dit, il y a des mots qui sont honnis dans le secteur automobile. On peut pas dire familial parce que c'est pas sexy de le dire, mais c'est des véhicules comme ça, c'est des petites familiales, des véhicules plus
absolument,
utilitaires.
Absolument.
Qui ont un format qui répond à la plupart des besoins, là, définitivement.
Et on a amélioré plusieurs aspects. Comme l'ancien Kona est assez bruyant, un problème qui est presque résolu. Là. C'est sûr que le moteur, quand on écrase un peu un 2 litres de 147 chevaux, ça chante pas toujours juste. Mais c'est un problème mineur parce qu'il faut toujours tenir compte du prix. Si ça faisait un bruit pareil sur une auto de 50 000 $, je crierais au meurtre. Je dis ça.
Il ouais, y aurait une coupe de turbo sur
ton
4
cylindres. Bon, probablement. Mais le nouveau modèle s'est amélioré. Il y a une meilleure insonorisation aussi dans le véhicule. On le sent. On sentait l'épaisseur des portes très, très, très mince dans l'ancien modèle.
Ouais.
On le sent mieux dans celui-là. Beaucoup plus agréable pour les trajets de tous les jours. La boîte automatique est plus agréable utilisée que l'ancienne boîte DSG. Bon, la DSG est très agréable. Le problème d'une boîte DSG, c'est que c'est fragile.
Oui, c'est vrai.
Donc, ça coûte cher aussi. On a décidé d'aller à l'automatique. Donc, ça, je dirais que la différence n'est pas assez notable pour que ce soit un défaut. Donc, je dirais, c'est un modèle intéressant. Je vous parlais, ah oui, il y a le Kia Niro que je voulais nommer, puis le CX-30, qui sont probablement d'autres concurrents, le Nissan Kicks, même le Crosstrek pourrait être considéré
dans quelque
chose.
C'est dans la même gamme de prix de base, ben oui, effectivement.
Puis Corolla Cross, que j'ai beaucoup aimé. Donc, on a dans cette gamme de véhicules-là, en fait, ça remplace ces modèles-là aujourd'hui, ce qu'étaient les véhicules compacts d'hier, parce que des voitures, il y en a peu ou il y en a plus. Un modèle comme la Versa nous quitte en 2024.
C'est vrai.
La petite Mirage du côté de Mitsubishi nous quitte aussi. Fait qu'il n'y aura plus de petites voitures. Les petites voitures, là, c'est ça. C'est des modèles comme le Kona, comme le Seltos, comme le Kia Rio, pas Rio, mais Niro, le HR-V, le CX-30.
C'est un drôle de lapsus.
Oui. Le Kicks, le Crosstrek, Corolla Cross. Donc, je dirais là, que dans les véhicules, dans cette catégorie-là qui sont intéressants, je place le Kona assez haut, surtout avec la garantie de 5 ans, qu'on retrouve chez les Coréens qui ne sont pas ailleurs.
Oui, puis leur 4 cylindres de base, il est quand même, il fait des années qu'il roule. Là, il fait une
ils ont eu certains problèmes dans certains modèles avec le moteur 2 litres que Hyundai a été très diligent. Hyundai a vu à remplacer des problèmes, à régler les bobos qu'il y avait, ce qui n'a pas été le cas chez Kia, puis pourtant...
c'est un bon point.
C'est le même moteur. Ben ouais. On peut se poser la question pourquoi Kia agit ainsi alors qu'Hyundai ont réglé les problèmes. Moi, mon père a un Elantra avec ce problème-là en 2014. Ils ont changé le moteur, littéralement.
Au complet, wow.
Il m'avait appelé un matin. Il dit, oh, oui, je m'en vais porter l'auto, il change le moteur. Je dis, comme ça, demain. Ben, il dit, il y a un problème. Puis mon père a racheté un autre Elantra en 2019 parce qu'il avait eu un bon service. Donc, quand on est capable de s'occuper de ces problèmes... Évidemment, ça rassure les automobilistes. Mais au-delà de cette garantie-là, les moteurs, maintenant, vont bien. La fiabilité est comparable à ce qu'on fait de mieux dans cette catégorie-là. Je dirais qu'un modèle comme le Toyota Corolla Cross va offrir un peu plus d'espace.
Mm-hmm. Un petit peu raffiné aussi.
Un petit peu plus raffiné. Ouais. Les prix vont se ressembler. C'est sûr. On part au début, fin 20 000. Partons à 31-32. Ça part un petit peu plus haut. Le Kicks va changer cette année. Surveillez bien, c'est une des nouveautés de Nissan en 2025. Ça va être le Kicks, qui est très beau, qui va venir probablement là jeter un peu de confusion dans
Nissan,
l'hégémonie dans cette catégorie-là. Parce
ils ont
que là, ça,
faire un petit effort, là.
Gros effort.
Oui, merci.
Le petit effort, t'es poli. Là, il en manque beaucoup, Nissan. Mais c'est la nouvelle arène, si tu veux, des petits véhicules, c'est ça.
Mm-hmm.
Donc, c'est important pour les constructeurs parce que c'est souvent par là que les gens vont arriver dans la compagnie. Et s'ils aiment ça, tu pars d'un Hyundai, tu vas d'un Kona à un Tucson, à un Palisade, on va garder les gens dans la famille. Et souvent, on fait beaucoup d'efforts au sein des compagnies pour que les modèles d'entrée de gamme soient abordables et agréables pour donner une bonne expérience aux gens. Donc, c'est souvent... une catégorie de véhicules qui est intéressante parce qu'on retrouve plusieurs joueurs de qualité, parce qu'honnêtement, là, un CX-30, un Kicks, un Crosstrek, un HR-V, ce sont vraiment tous de bons véhicules. Corolla Cross, Kona, on pourrait ajouter le Seltos à ça. Donc, il y a beaucoup de modèles intéressants.
Ouais.
Et le prix, c'est assez rare, mais le prix est réaliste là, quand on parle de 26 000 $ comme modèle, comme prix de base.
Il faut dire, Hyundai a fait des progrès aussi, même à l'intérieur, parce que là, évidemment, c'est une question peut-être de goût, mais le tableau de bord chez Hyundai s'est rendu un grand espèce de panneau avec les cadrans, puis le système multimédia et tout ça.
Exact.
Et on récupère ça même dans les véhicules d'entrée de gamme, parce que ça permet d'avoir Android Auto sans fil, CarPlay sans fil, les affaires comme ça que les gens aiment beaucoup.
Et c'est très facile. Le mien, il y a, je ne sais pas si le chargeur sans fil est une option ou pas, mais j'ai ça dans le mien. Et pas besoin de traîner de fil.
Pas de casse-tête.
On branche tout, ça se fait automatiquement. Tu sais, je suis toujours surpris que dans des marques de luxe, on vous charge pour ça, alors qu'on a vu que la 28 000 $ qui est inclus dedans.
Exact.
Je disais, hey, si lui peut le faire à 28 000, pourquoi toi, à 60 000, tu me charges pour une affaire de même?
Pour
ça
n'a
pas
téléphone.
De sens. Mais, cela dit, très bon achat, très beau modèle. Si vous passez devant Kona, le 2024, franchement, là, deux pouces en l'air. On a beaucoup aimé ce modèle-là.
Bon.
Et on va en voir. Là, on s'en vient. Il y a d'autres essais qui s'en viennent. On s'en va au Santa Fe. On s'en va...
Ah oui, qui est d'ailleurs, là, Ford, le Santa Fe, cette année. Oui.
Ford Ranger Raptor, des modèles qui s'en viennent. On va être capable de vous parler du Q6 parce qu'on a eu de l'information là-dessus. Donc, restez avec nous au cours des prochaines semaines. Vous allez voir, là, on a pas mal d'informations qui s'en viennent. Là, c'est le printemps. Ça commence à se sentir.
Ben
ça
oui.
dégèle. Les constructeurs nous envoient de l'information. On va avoir beaucoup de choses. Alors, merci d'avoir été là, mon cher Alain. Merci à Jean-Christophe Ouellette. Merci à Nathan Léon, notre invité d'Autotrace. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Salut.
C'est 23.